Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un livre et son auteur, un écrivain et deux assassins. En 1965, paraît dans le magazine The New Yorker un roman de Truman Capote au titre à rallonge, 200 froids, récit véridique d'un quadruple meurtre et de ses conséquences. Vendu à plus de 2 500 000 exemplaires la première année aux États-Unis, traduit en 25 langues, immédiatement adapté au cinéma, en un an à peine, il rapporte 2 millions de dollars à son auteur, soit 14 dollars par mot écrit. L'originalité de ce roman, ce qui fait son succès, c'est qu'il est d'un genre inédit. C'est un roman vérité, dit-on. Il a tout d'une fiction, mais il raconte une histoire vraie. Truman Capote a donc choisi d'écrire un roman pour interroger le réel. 200 froids, c'est également le fruit d'un reportage de 5 ans qui l'a épuisé, bouleversé. Capote s'est plongé dans un fait divers, le massacre d'une famille par deux cambrioleurs, jusqu'à devenir le plus proche confident des meurtriers. Mais 200 froids reste une fiction dans laquelle jamais son auteur n'apparaît. Non, pas une seule fois il n'écrit à la première personne. Pourtant, le personnage principal, c'est lui. Et le sang-froid qu'il évoque dans le titre de son œuvre, ce n'est pas que celui des assassins, c'est aussi le sien. Notre invité aujourd'hui, Liliane Kerjean, professeure à l'Université de Rennes, spécialiste de la littérature américaine, biographe de Tennessee Williams, Arthur Miller, Abraham Lincoln, George Washington et Truman Capote. Elle lui a consacré un livre paru en 2015 chez Folio. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Personne ne saura jamais le vide qu'a creusé en moi de sang-froid. Ce livre m'a ratiboisé jusqu'à la moelle des os, m'a presque tué. En un sens, je crois qu'il m'a tué. Avant de le commencer, j'étais quelqu'un de relativement stable. Après, il m'était arrivé quelque chose. Je ne parviens simplement pas à oublier. En particulier les pendaisons, à la fin. Horrible.
Janvier 1962, Kansas. Un petit homme agité claque la porte de sa voiture et marche fébrilement vers un grand bâtiment en pierre couleur brique. Devant lui se dressent des murs d'enceinte de 10 mètres de haut qui se terminent en créneau et deux tours encore plus grandes depuis lesquelles deux hommes le regardent, fusil à la main. Nous sommes au pénitencier de Lansing qui ressemble à un château fort. Sa seule entrée et sa seule sortie, ce sont les deux grandes portes de fer qui s'ouvrent pour ce visiteur, un homme qui répond au nom de Truman Capote. Et ici, au Kansas, entre le Nebraska, le Colorado, l'Oklahoma et le Missouri, cet écrivain a succès loin, très loin de sa vie new-yorkaise. Les gardiens lui demandent ce qu'il amène. Il leur répond de sa voix suraiguë qu'il a rendez-vous avec deux numéros, celui des détenus 14 746 et 14 747, autrement dit, quand ils avaient un nom, Richard Ishock et Perry Smith. Ils sont au dernier étage, dans le quartier des condamnés à mort. Cruz, le directeur de la prison, regarde un ergumène qui pénètre sur son territoire. Un homosexuel, pense-t-il. C'est bien la dernière chose dont on a besoin par ici. Et ce n'est certainement pas ce directeur de prison bardé de certitudes et de préjugés qui a accordé le droit de visite à ce petit prétentieux, non. Ce droit, Capote l'a acheté. Il a offert 10 000 dollars à un homme politique qui, en échange, lui a ouvert les portes de la tôle. Capote monte les escaliers. Tout en haut, il tombe sur un long couloir de 12 cellules, 6 à gauche, 6 à droite, 6 mètres carrés chacune, avec rien d'autre qu'un lavabo et des toilettes. Une ampoule nue projette une lumière glauque qui jamais ne s'éteint. Une meurtrière dans le mur laisse passer un filet de soleil. Dans le couloir de la mort, on ne sait jamais s'il fait jour ou s'il fait nuit. En voyant arriver le visiteur, Hickok et Smith sourient. Car voilà 2 ans qu'il écrit un livre sur le quadruple meurtre qu'ils ont commis. ...1959, New York. Truman Capote, 35 ans, a réussi le tour de force de venir du fin fond de l'Alabama et de devenir la coqueluche du tout New York. Marilyn Monroe, la famille Kennedy, toutes les stars, tous les millionnaires s'arrachent ce prodige de la littérature. impressionné par la réussite de son dernier roman, Petit déjeuner chez Tiffany. Capote de l'esprit, du talent et du succès, ticket gagnant. Après avoir écrit 3 romans, il veut maintenant créer une œuvre d'un genre inédit. Il s'en explique à la télévision française en 1966.
Ce que je voulais faire, c'était mêler le journalisme et la technique romanesque. Et je cherchais un sujet intemporel qui me donnerait une large gamme de possibilités. La raison pour laquelle j'ai choisi cette histoire est que les gens étaient tellement typiques d'un certain aspect de l'Amérique. Il y avait l'opposition entre ces deux garçons sauvages, impitoyables, et cette famille terriblement tranquille, ordinaire. Ils représentent deux aspects de l'Amérique, deux courants qui entrent en collision. Parce que j'ai toujours été attiré par le versant nocturne de la nature.
Capote veut écrire un roman journalistique. Une œuvre qui allierait la crédibilité des faits, la profondeur et la liberté de la prose, ainsi que la précision de la poésie. Je reprends ces mots. Alors, il lit la presse à la recherche d'une histoire. Plusieurs sujets le tentent, mais rien ne le convainc vraiment jusqu'au 16 novembre 1959. Ce jour-là, il ouvre un journal et tombe sur un petit article qui vient de la ville de Holcomb, dans le Kansas, et qui titre « Un riche fermier massacré avec 3 membres de sa famille ». L'écrivain s'attarde sur ces quelques colonnes et lit les premières lignes qui disent « Un riche cultivateur, sa femme et leurs 2 jeunes enfants ont été trouvés morts dans leur maison. Ils ont été abattus à bout portant à coups de fusil de chasse après avoir été ligotés et bâillonnés. » Capote referme le journal et se dit « Tiens, pourquoi pas un crime ?» Alors il file à la rédaction du magazine pour lequel il travaille, The New Yorker. Il toque au bureau du rédacteur en chef et lui propose 2 sujets. Suivre une femme de ménage et écrire le portrait des gens pour lesquels elle travaille sans jamais les voir. Très bon sujet d'ailleurs. Ou bien partir pour Holcomb, décrire une ville tranquille, bouleversée par un quadruple meurtre. Il choisit la 2e option. Et 1 mois plus tard, il prend le train avec une certaine Neil Harper Lee, une amie d'enfance qui vient de terminer son roman intitulé « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Les 2 arrivent le 15 décembre au soir, 1 mois pile après les meurtres. Et voilà Truman Capote lancé sur une affaire que tout le monde aurait oubliée s'il ne s'était pas penché dessus. Plus tard ailleurs, il dira « Si j'avais su ce que me réservait l'avenir, jamais je ne me serais arrêté à Garden City. Non, j'aurais traversé la ville d'une seule traite, comme une chauve-souris fuyant l'enfer. »
Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres habitants du Kansas appellent là-bas. À quelques 70 miles à l'est de la frontière du Colorado, la région a une atmosphère qui est plutôt far west que middle west, avec son dur ciel bleu et son air d'une pureté de désert. Le parler local est hérissé d'un accent de la plaine, un asillement de cow-boy. Et nombreux sont les hommes qui portent d'étroits pantalons de pionniers, de grands chapeaux de feutre et des bottes à bout pointu et à talons hauts. Le pays est plat et la vue étonnamment vaste. Des chevaux, des troupeaux de bétail, une masse blanche d'élévateurs à grains qui se dressent aussi gracieusement que des temples grecs sont visibles bien avant que le voyageur les atteigne.
Ce sont les premières lignes de Sang-froid lues par Truman Capote lui-même. Les premières impressions de cet endroit pour lequel il est parti en pensant réaliser un simple reportage. Mais dans cette région improbable, il est déstabilisé. Les gens parlent la même langue, l'anglais, payent avec la même monnaie, le dollar, saluent le même drapeau étoilé, et pourtant, il sent, je cite, « il se sent aussi dépaysé que s'il était allé à Pékin ». À Holcomb et dans toute cette région, les habitants sont des buveurs d'eau. C'est comme ça qu'on les appelle à New York, avec un peu de mépris. Une morale puritaine, des convictions républicaines, une vie rurale, tout le contraire de Manhattan. Et ces buveurs d'eau observent Capote qui s'agite. Il est tout petit, mais on ne peut pas le rater avec sa drôle de calotte, son pardessus trop grand et son écharpe qui traîne par terre. Vu qu'à Holcomb, c'est plutôt chapeau de cow-boy et bottes de cuir, il passe pour un original, un dandy, un citadin. Capote et Harper Lee commencent par rencontrer l'agent chargé de l'enquête. Il s'appelle Alvin Dewey. Il le trouve au tribunal de Garden City, à côté de Holcombe. Capote lui dresse son CV d'écrivain star et lui expose son sujet. Une petite ville traumatisée par des meurtres sauvages. Dewey le regarde impassible. Le primitif lui explique qu'il n'est pas journaliste, non. Non, il va faire un travail littéraire, donc il lui est complètement égal que ce crime soit résolu ou non. Grave erreur, parce que Dewey, lui, a perdu 8 kilos en un mois sur cette enquête. Il travaille jour et nuit pour retrouver le ou les coupables. D'autant qu'il connaissait bien les victimes, des paroissiens de l'église méthodiste, comme lui. Alors qu'il refuse de collaborer avec cet homme qui s'imaginait à tort que sa célébrité lui ouvrirait toutes les portes, comme ça, en touriste, juste pour le fun, le roman, et puis quoi encore. La porte de la maison de drame, Capote l'ouvre tout de même. Avec Clifford Hope, un avocat, et avec l'exécuteur testamentaire de la famille massacrée, l'écrivain visite la scène du crime.
Voici la maison du crime, la vraie. C'est là en effet une nuit de 1959 que les deux tueurs sont arrivés. La porte n'était pas fermée, ils entrèrent. Sans hésiter, ils s'emparèrent du père, de la mère, des deux enfants et les conduisirent dans la cave. Toute la famille Clutter, ici même, devait être atrocement massacrée.
Les victimes, ce sont les Clutter. Herb, le père, Bonnie, la mère, Nancy, la fille de 16 ans, et son frère Canyon, 15 ans. Les quatre forment une famille parfaite. Le père tenait une exploitation agricole prospère, tout ça était politiquement correct à souhait. Et voilà que le ou les coupables les ont ligotés et tués, s'acharnant sur le père dont ils ont tranché la gorge. Ils sont repartis avec 30 ou 40 dollars et un transistor radio. Dans la ville, on se dit que les monstres rôdent peut-être encore dans les environs. Alors, à Holcombe, on laisse la lumière allumée, on verrouille les portes qu'on n'avait jamais fermées et on charge les fusils. Dans cette ambiance tragique, il n'y a pas de place pour l'extravagant Truman Capote. Après quelques jours, il est tellement dépité qu'il veut abandonner. Mais là où il échoue, son ami Harper Lee décroche, elle, ses premiers succès. Elle n'est là que depuis 2 ou 3 jours, mais déjà les femmes d'Holcombe l'invitent à prendre le café. Et le 24 décembre, elle et lui sont invités par l'avocat Clifford Hope et sa femme à partager leur réveillon. Voilà Capote sur le terrain qu'il affectionne le plus, celui des mondanités. Dolores Hope se souvient.
Une fois résignée à sa voix au perché, on finissait par l'oublier. Ses propos venaient d'un autre monde et étaient pour nous fascinants. La soirée était très réussie. Des gens ont commencé à m'appeler. On s'est mis à se l'arracher. C'était une attraction et les gens ne voulaient pas la rater.
Et c'est ainsi que, contre toute attente, Capote devient la coqueluche des fermiers des buveurs d'eau de Holcombe. À son hôtel, le standard croule sous les invitations. Les portes s'ouvrent, les langues se délient. Même Dewey, l'agent spécial qu'il avait si fraîchement accueilli dans le hall du tribunal, finit par l'inviter à dîner le 30 décembre. Sa femme Marie a préparé du riz aux haricots rouges et aux crevettes. La soirée est belle, quand soudain le téléphone sonne. Aline Dewey se doute qu'un appel si tardif annonce une nouvelle importante. Alors elle se lève, décroche, son air est grave. Il écoute en silence quelques secondes, puis il raccroche. Revient à table, soudainement détendu. Et il annonce la nouvelle à sa femme et à ses invités. Les meurtriers des Clutter ont été arrêtés.
La toute première fois que je les ai vus, c'est le jour où on les a ramenés à Garden City. Ça faisait près de 5 heures que j'attendais sur la place principale, au milieu de la foule, mort de froid. Oui, la toute première fois. J'ai essayé de les interviewer le lendemain. 2 interviews complètement ratées.
Une semaine après le dîner chez les Dewey, Capote et Harper Lee sont devant le tribunal de Garden City. La police se fraye un passage dans la foule avec les 2 accusés qu'on découvre. Richard Hickok a 28 ans, il est blond, assez grand. Il a une drôle de tête, coupée en 2 comme une pomme, puis recollée avec un léger décalage, écrit Capote. Perry Smith, le 2e, est petit. Il boite, il a les cheveux très noirs et les yeux tombants, un peu tristes. Et là, pas de mystère, ils ont déjà tout avoué. Ils ont été confondus par une empreinte de chaussure, par le couteau qui a servi à égorger le père et surtout par le témoignage d'un ancien codétenu de Richard Hickok qui lui avait expliqué que les Clutter étaient très riches. Hickok a mis Perry Smith dans le coup parce qu'il savait que c'était un tueur. Une aubaine quand on ne veut laisser aucun témoin. Perry et Dick, le surnom de Richard, ont ainsi abattu les Clutter de sang-froid. Mais il n'y avait dans la maison qu'une poignée de dollars et un transistor radio. Quand Capote voit Dick et Perry pour la première fois, il a déjà toute la matière pour faire son reportage. Mais maintenant que les meurtriers sont derrière les barreaux, c'est une nouvelle histoire qui commence, bien plus excitante. Devant le juge, Perry Smith s'assied sur le banc des accusés. Et Capote glisse malicieusement à Harper Lee. Regarde, ses pieds ne touchent même pas par terre. Et Harper Lee se dit, tiens, voici le début d'une grande histoire d'amour.
Sensible. Fabrice Drouel.
Nous sommes au début de l'année 1960. Dick et Perry viennent d'être arrêtés et Truman Capote passe des heures avec eux à parler au travers de leurs barreaux. Il leur dit qu'il travaille sur un reportage qu'il va leur consacrer, oui, sur ce qu'ils ont fait et sur leur vie tout entière. Il les écoute et il finit par gagner leur confiance. Ou avec Dick, c'est facile, c'est un bavard, il dit tout, ses deux divorces, ses enfants qu'il a abandonnés, mais avec Perry, c'est plus compliqué, parce que lui est méfiant. Capote apprend tout de même que ses cheveux noirs, ses yeux tombants et son air triste, il les tient de sa mère indienne, une Cherokee. À leur procès, qui s'ouvre le mardi 22 mars 1960, les jurés doivent décider de leur vie ou de leur mort. Ce sera leur mort. La cour décrète qu'elle aura lieu le vendredi 13 mai par pendaison. Capote, lui, ne veut pas assister à ça. Et trois mois après le début de son reportage, il veut maintenant écrire un livre de cette histoire. Alors, il part en Europe. Il se donne un an, loin des États-Unis, pour écrire en paix. En réalité, il lui faudra effectivement un an juste pour débroussailler les milliers de pages de notes qu'il a emportées avec lui dans une grosse malle. Depuis le couloir de la mort du pénitencier de Lansing, Dick et Perry accumulent les pourvois. Leurs exécutions sont reportées. Deux fois par semaine, ils écrivent à Capote, qui, de l'autre côté de l'Atlantique, vit avec eux leur attente angoissante. Ils l'appellent Ami Truman. Il est leur seul contact avec le monde libre. Et Capote leur répond deux lettres chacun par semaine, en prenant soin de ne pas se répéter. Parce que les deux sont jaloux, figurez-vous. Surtout Perry. Capote a une relation particulière avec lui. Il en parle à la télé américaine après l'apparition de son livre.
Nous sommes devenus très intimes. C'était une amitié intense. L'amitié n'est pas tout à fait le mot. Mais c'était une relation très intense entre lui qui était totalement seul et mon sentiment de pitié pour lui. C'était ça qui nous liait.
Dans les lettres que Perry envoie à Capote, il se confie, car c'est la première fois qu'on s'intéresse à lui. Il raconte son parcours, et c'est bien ce que Capote veut comprendre, parce que c'est sa conviction, les meurtriers sont des hommes ordinaires avec des problèmes extraordinaires. Il est vrai que la vie de Perry est une accumulation de malheurs. Une mère étouffée dans son vomi, des expériences épouvantables dans les orphelinats, un père absent et violent. Perry Smith s'est réfugié dans l'art, la peinture, la musique. Il écrit des poèmes, il est assoiffé de connaissances. Et il est passionné par les trésors. Avec l'argent qu'il comptait trouver chez les cloteurs, il voulait partir au Mexique et trouver le trésor de Cortés, des tonnes d'or enfouies quelque part au fond de l'océan. Mais il ne savait même pas nager, ce qui est un problème tout de même pour ce genre de projet. Sa vie, écrit Capote, est une course calamiteuse et solitaire à la poursuite de mirages successifs. Cette nuit-là, chez l'éclateur, il s'est retrouvé face à une famille riche, aimante, unie, qui lui a renvoyé l'image de sa triste vie. D'ailleurs, il l'admet. Je n'avais rien contre eux, et ils ne m'ont jamais fait de mal. Mais peut-être qu'ils étaient tout simplement ceux qui devaient payer. Un crime de classe, en quelque sorte. Avant de tuer le fils, il lui a glissé un oreiller sous la tête pour qu'il soit plus à l'aise. Même chose pour le père, qu'il a allongé sur un carton au lieu de le laisser sur le sol froid. C'était un monsieur très bien, dit Perry. Et qui parlait d'une voix douce. Oui, c'est ce que j'ai pensé jusqu'à ce que je lui ouvre la gorge. Le 15 décembre 1963, Capote lui écrit.
Cher Perry, je me suis réveillé en sursaut l'autre nuit et me suis dit « Perry prétend qu'il ne sait rien de moi. » Je suis resté couché en y réfléchissant et j'ai compris à quel point c'était vrai. Sur moi, sur ma vie, tu ignores jusqu'aux informations élémentaires qui ont une certaine similitude avec les tiennes. Je suis fils unique, très petit pour mon âge. Mon père et ma mère ont divorcé quand j'avais 3 ans. Mon père était représentant de commerce. Il était gentil avec moi, mais je ne l'aimais pas. Ma mère, qui n'avait que 16 ans à ma naissance, était extrêmement belle. Malheureusement, elle a fait plusieurs fausses couches, est devenue alcoolique et m'a rendu la vie impossible. Elle a fini par se suicider. J'ai toujours été précoce sur le plan artistique et sur le plan intellectuel, mais complètement immature sur le plan émotionnel. Ce résumé n'est qu'une esquisse, mais il n'est pas dans ma nature de faire ce genre de confidence. Je n'ai cependant ressenti aucune gêne à tout avouer. Fidèlement, Truman.
Perry et Capote se reconnaissent mutuellement. Chacun tend à l'autre un miroir dans lequel il contemple ce qu'il aurait pu devenir en suivant une autre direction. Capote, d'ailleurs, le confie à l'agent Dewey. Vous savez, dans la vie, on suit son chemin, et puis on arrive à un embranchement, et là, il faut prendre soit à gauche, soit à droite. Moi, j'ai pris à droite, Perry, lui, a pris à gauche. Perry lui pose alors la question fondamentale. Pourquoi écrit-il ce livre ? Pour faire une œuvre d'art, répond Capote. Perry se met à rire, d'un rire triste. Une œuvre d'art, tu parles d'une ironie. La seule chose que j'ai vraiment désiré dans ma vie, c'est faire une œuvre d'art. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai tué 4 personnes. Et toi, tu vas faire une œuvre d'art. Les liens de Capote avec Perry deviennent comme des chaînes. le livre devient la prison de son auteur, comme il explique en 66 au micro de France Inter.
Mais vous essayez dans votre livre d'être extrêmement impersonnel, et il semble que vous réussissiez tout à fait, et pourtant on ne peut pas s'empêcher de penser que vous avez certaines sympathies pour les assassins.
Well, there's a very good reason for that. Kindly remember that I never knew the family.
Eh bien, il y a une raison tout à fait naturelle pour ça, c'est que je n'ai jamais connu personnellement la famille. Elle était morte. J'ai dû reconstruire la personnalité de cette famille et leurs actes d'après seulement ce que les autres personnes m'ont dit. Tandis que j'ai connu les deux assassins intimement pendant 5 années. Donc naturellement, je suis bien plus en rapport avec eux, car je connais d'eux chaque chose qu'il est possible pour un être humain de connaître sur un autre être humain.
1962, 1963, 1964, les procédures se succèdent, le livre avance, mais il n'y a pas d'issue en vue, ni pour les condamnés, ni pour le livre. Il se trouve qu'un autre pensionnaire du couloir de la mort est parti pour la grande culbute, comme on dit là-bas. Dick et Perry ont entendu la trappe s'ouvrir et le cou se briser au bout de la corde. De son côté, plus Truman Capote écrit, plus il se rend compte qu'il peut créer un chef-d'œuvre. Quand je pense à la qualité que pourrait avoir ce livre, j'en ai le souffle coupé, écrit-il. C'est l'expérience la plus passionnante de ma vie qui, en vérité, l'a changé, ma vie. Oui, Capote est obsédé par l'affaire d'Holcombe. Il y investit toutes ses forces sans jamais en voir le bout. Son livre le rend fou. Début 63, il écrit les 3/4 de l'ouvrage. La première partie est axée sur la journée du meurtre. La deuxième sur l'enquête, la troisième sur les criminels. Capote est maintenant aussi tendu que les cordes d'une douzaine de pianos fraîchement accordés, comme il le dit joliment. Parce qu'il lui manque la quatrième partie, la dernière, le dénouement, qui est aussi celui de Dick et Perry. Ces personnages sont devenus ses amis. Mais pour terminer son œuvre, Truman Capote a besoin qu'il meure. Et l'attente est affreuse. Chaque pourvoi est un sursis qui prolonge de quelques mois encore la vie de Dick et Perry, en même temps que le tourment insupportable de Truman Capote. Début 1965, il écrit à un ami « Je suis dans un état de tension et d'anxiété terrible. Perry et Dick se sont pourvus en appel pour un nouveau jugement. S'il leur était accordé, j'en ferai une dépression nerveuse. » En janvier 65, les deux condamnés sont en prison depuis 5 ans. Ils ont épuisé tous les recours. Cette fois, la date de leur exécution est arrêtée pour de bon. Ils mourront le 14 avril 1965. Rares sont les gens qui savent le moment précis où voulez-vous mourir, inscrit sur un agenda. Le 14 avril, écrit Perry à Capote. Tu sais, c'est le jour où on sautera dans le trou, au cas où t'aurais pas été informé. Charles Macchetti, directeur de prison du Kansas, se souvient de cette nuit-là.
Il crachinait. La nuit était très noire. Exactement le genre de nuit qu'un cinéaste choisirait pour une scène pareille. On entendait au loin un chien hurler à la mort. En sortant du bureau du directeur adjoint, Perry et Dick sont montés dans une voiture qui a franchi la porte du pénitencier et longé le mur sud pour pénétrer dans l'entrepôt, par un grand portail, 2 fois plus haut que la normale. La potence était dressée tout de suite en entrant, dans le coin sud-est. On la mettait toujours là.
Capote est arrivé à Kansas City 1 ou 2 jours plus tôt. Dick et Perry le lui ont demandé parce qu'ils veulent que leur ami assiste à leur pendaison. Alors, voilà arriver le moment que Capote attend depuis des années avec angoisse. Ces personnages vont mourir devant lui. Il pleure, sans s'arrêter. Dick et Perry ont demandé à ce qu'ils passent l'après-midi, à ce qu'ils partagent leur dernier moment. Mais Capote ne veut pas. Le téléphone de son hôtel sonne toute la journée. Les deux morts vivants insistent, mais Capote ne répond pas. Perry lui envoie un télégramme qui dit « Attends et espère ta visite. S'il te plaît, câble par retour quand tu viens. » Truman Capote lui répond « Cher Perry, impossible venir aujourd'hui, visite non autorisée, ton fidèle Truman. » Mais c'est faux. En vérité, l'écrivain est incapable d'y aller. Alors, Perry écrit une lettre pour lui et pour Harper Lee.
Je regrette que Truman n'ait pu venir ici, à la prison, pour échanger 2 ou 3 mots avant la petite fête de la cravate. Je ne connais pas ses raisons pour ne pas se montrer, mais je veux que vous sachiez que je ne vous en veux pas et que je vous comprends. Il ne reste guère de temps, mais il faut que vous sachiez tous les deux que je vous suis sincèrement reconnaissant de votre amitié et du reste ces dernières années. Je ne suis pas doué pour ces choses-là. Je veux que vous sachiez tous les deux que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Mais c'est l'heure du collier. Adios, amigos. Tous mes vœux. Votre ami pour toujours, Perry.
Et puis finalement, Capote se décide. Allez. À 21h, le 13 avril, il part pour la prison sous une pluie battante. Il est autorisé à dire quelques mots à Dick et Perry avant de les voir mourir. Perry le regarde et lui glisse. Au revoir, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Il l'embrasse sur la joue, il ajoute « Adios, amigos ». Dick est pendu le premier. Pourquoi, lui ? On a proposé de tirer à la courte paille ou à pile ou face. Et on a finalement opté pour l'ordre alphabétique. Le H de Hickok vient avant le S de Smith. Dont acte. Le JB est installé dans un entrepôt mal éclairé dans lequel la prison stocke toutes sortes de choses dont elle ne sait que faire. Dick et Perry ont le droit de se voir une dernière fois. Un de ces quatre lance le premier au second en souriant, amitié virile, jusqu'au dernier souffle. Puis on l'emmène dans une voiture qui s'arrête devant la potence. Un garde l'aide à descendre de l'auto, puis à monter les 13 marches étroites qui donnent en haut sur la corde qui attend son coup. Le bourreau porte un chapeau noir et un col roulé qui lui monte jusqu'au menton. Dick dit quelques mots. Je veux simplement dire que je n'ai de rancune contre personne. Vous autres m'envoyez dans un monde meilleur que celui-ci. L'aumônier lit un texte que personne n'écoute tant l'inutilité apparaît plus flagrante que jamais pendant qu'un garde noue un bandeau noir autour du visage du condamné. Les dernières images que ses yeux auront perçues sont celles de la triste assemblée qui s'étale devant lui, une vingtaine de personnes. Dewey et Capote sont côte à côte, adossés à un tas de bois. Capote part vomir derrière la stère. Le bourreau actionne un grand levier. La trappe sous les pieds de Dick s'ouvre dans un bruit fracassant. Le corps tombe tout droit. On entend le cou se rompre dans un bruit sourd. Quelques minutes passent. Un médecin monte les marches, ouvre la chemise, pose un stéthoscope sur la poitrine. Il faut attendre qu'il n'y ait plus une seule convulsion, que les muscles du corps supplicié ne tressaillent plus. 20 minutes interminables, barbares, loi américaine et loi d'Italie ont parlé. Rideau. Puis on enlève le mort et on fait venir l'autre, le vivant qui va mourir. Perry Smith mâche un chewing-gum, l'aumônier tend la main, Perry crache dedans, puis déclare énigmatique. À mon avis, c'est une vraie vacherie de supprimer la vie de cette façon-là. Je ne crois pas à la peine capitale, moralement ou légalement. J'avais peut-être quelque chose à faire. Quelque chose. Comprenne qui pourra. Perry est pendu à 1h19, déclaré mort à 1h41. Mais qu'a fait Truman Capote pendant ces 22 minutes? Il n'en a jamais parlé. On peut penser toutefois que ce qu'il décrit dans 200 froids comme la réaction de Dewey est en fait la sienne.
Dewey ferma les yeux. Il l'est enfermé jusqu'à ce qu'il entende le bruit sourd qui annonce un coup brisé par une corde. Dewey se souvint de la première fois qu'il avait rencontré Perry, dans la salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Las Vegas. L'homme enfant, le nabo assis sur la chaise métallique, ses petits pieds chaussés de bottes n'arrivant pas jusqu'au plancher. Et lorsque Dewey rouvrit les yeux à présent, c'est ce qu'il vit. Les mêmes petits pieds d'enfant qui pendaient et se balançaient.
Le lendemain, Truman Capote est dans l'avion pour New York. Il passe tout le trajet à pleurer. Il a laissé 141 $ à la prison, 2 fois 70 $ et 50 cents, pour payer à Dick et Perry 2 dalles de granit, simples, identiques, pour leur sépulture. Arrivé à New York, il téléphone à la société de production pour l'adaptation de son livre au cinéma. 2 mois plus tard, il en écrit les dernières pages. Et il envoie une lettre à l'un de ses amis. Dieu soit loué, mais c'est incroyable d'être subitement libéré de toutes ces années de tension et d'usure. Pour l'instant, je me sens seulement à la dérive, mais reconnaissant. Jamais plus. Il reste à notre homme presque 20 ans à vivre. Mais en effet, jamais plus il n'écrira de roman.
I am here, right here, where God puts none asunder, and you in black dress and black shoe, you do invite me under. Go on, go there, you can see me aging, stars turn, balls burn. Coming kids are raging, death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death friend. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Strap me on and raise me high, 'cause buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to me and death to you, tell me what else can we do, daddy? Death to all, death to each, our old God bottles within reach. Death to everyone is gonna come, makes hosing much more fun.
France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Truman Capote, De sang froid, notre invité Liliane Kerjean. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Fabrice Houël.
Professeur à l'Université de Rennes, spécialiste de la littérature américaine, biographe de Tennessee Williams, Arthur Miller, Abraham Lincoln, George Washington, entre autres. Hein, et de Truman Capote, vous lui avez consacré un livre paru en 2015 chez Folio. Qu'est-ce que de sang-froid a changé dans la vie de Truman Capote, sinon tout?
Alors, d'une part, il a eu un succès immense de librairie, les traductions dont vous parliez, ouais, une notoriété maximale, et finalement une aisance matérielle. Il déménage et va sur Union Plaza. Donc, c'est un homme arrivé à l'issue de l'écriture et de la parution de sang-froid.
Oui, c'est l'acmé de sa carrière, et c'est même plus que ça, parce qu'après, il n'écrit plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a déjà fait ses preuves. Il a écrit un roman du Sud qu'il a lancé, qui a été traduit en France par les grands traducteurs, donc Domenanté. Il a écrit le grand roman new-yorkais, Petit déjeuner chez Tiffany. Et après ça, il va tenter une comédie humaine qui s'appelle Prière exaucée et qui va lui aliéner tous ses amis riches. Donc c'est un faux pas de sa part.
Donc voilà, de sang-froid, c'est à la fin l'acmé et à la fois l'acmé et la fin. Est-ce que vous voyez ça comme un roman de sang-froid? Est-ce que vous l'avez perçu, vous, comme un roman contre la peine de mort, entre autres?
Pas vraiment. Capote n'est pas du tout un militant. De son passé en Alabama, il a gardé une haine de l'extrême droite, évidemment du Ku Klux Klan. Mais en fait, il ne milite pour aucune cause.
Alors,
il est bouleversé par l'exécution, où il vient présent avec son éditeur, comme vous avez dit.
Il fait le choix du roman pour raconter ce fait divers. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui invente ce genre de non-fiction novel, autrement dit de roman-vérité?
Lui, il le qualifie de roman-vérité, il le qualifie de photographie littéraire, d'expérience d'écrivain, et donc... Pour réussir tout ça, il va multiplier les sources, les documents officiels, les investigateurs comme Dewey, et même il est très précis, il va tenter de retrouver les personnages qui ont accompagné la cavale des deux meurtriers, et en particulier un chauffeur routier Bell. Donc il est très méticuleux.
On sait combien de temps il a passé à Holcombe, avec les habitants?
Alors,
notamment
lui, il évalue ça à 4 ans. Il dit que c'est un exercice solitaire, difficile, qui lui a demandé beaucoup d'efforts.
Mais on imagine. Mais bon. On imagine. Il arrive à charmer les gens de Holcombe. Hein. C'est ça, c'est une de ses caractéristiques de
Truman Capote. Oui, c'est un charmeur.
Ouais, c'est un charmeur.
On se l'arrache pour les soirées mondaines, pour son bel esprit. Le fait qu'il n'utilise pas de truchement, c'est-à-dire il ne prend pas de notes,
oui,
il n'utilise pas de magnétophone, mais l'interlocuteur en confiance. Et on a un exemple massif, c'est Marlon Brando qui est à Kyoto. Ils passent toute une nuit ensemble et le lendemain, Truman va faire un portrait extrêmement détaillé qui va mettre en furie Brando. Voilà.
Alors, il prend une décision quand même étonnante, hein, c'est de jamais apparaître Truman dans le livre, et pourtant on sait qu'il parle de lui. Hein,
il préfère que ce soit sans écran, que ce soit transparent, et qu'il n'intervienne pas. Donc il réussit ce tour de force d'y être sans y être.
C'est ça, oui. Liliane Cargeon, on va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Al Jay qui chante alors cette circonstance, In Cold Blood. Zero.
above crowding.
So fucking loud, Mr.
De sang froid. Lillian Kerjean, on l'a vu pendant le récit, il se noue entre Truman Capote et Perry Smith, l'un des deux condamnés, une relation particulière, très étroite. Comme lui, la mère de Smith est morte alors qu'il était jeune, son père était presque absent. Ça crée des liens, et j'en viens au nom de Capote. C'est pas le nom de son père, me semble-t-il.
Alors, d'où tient-il pas son nom de naissance. Il est né Truman Streckfus Pearson, et sa mère a retrouvé, lorsqu'elle a quitté l'Alabama, des Latin lovers qu'elle avait connus, et en particulier un Cubain du nom de Garcia Capote. Et donc ils se marient, et Monsieur Capote adopte le fils de son épouse.
Ah, il donne son...
Donc ça le fait partir sur autre chose, et c'est le moment où il commence ses études. Il est déjà lié à Andy Warhol, et il va faire son chemin grâce à ses facultés intellectuelles.
Oui, et ce nom aussi, ça est-ce que ça a joué, ce nom aux résonances un peu bizarres comme ça, ça joue pour la notoriété, la réussite de Truman Capote?
Pas vraiment, mais entre-temps, il a suivi les meilleures écoles, et donc il a commencé à publier tôt. Et finalement, il est déjà admis dans le milieu littéraire lorsqu'il est pris au séminaire de Yaddo, où il côtoiera Carson McCullers, où il se liera à un prof qu'il appellera son Harvard et qui lui fera une éducation classique. Donc là, il a très bien démarré. Et l'apogée, bien sûr, c'est le bal masqué du 28 novembre 66, 500 invités au Plaza de New York. Un bal en noir et blanc. Bien entendu, les belles dames ont des masques dessinés par les grands couturiers. Et c'est le sommet de sa gloire. Sa capacité d'attraction, c'est un triomphe. On a tout le monde, Sinatra, Andy Warhol, les muses, Lady Johnson, les Kennedy, etc.
Et ça fait... Donc, oui, je vous en prie, continuez.
Non, donc il a à la fois le monde diplomatique, le monde littéraire, le monde politique... qui sont à ses pieds pour une soirée.
Ah ouais, c'est un homme puissant, le temps d'une soirée en tout cas, et c'est évidemment beaucoup d'argent, hein, parce qu'il y a beaucoup de succès. Et il a parlé lui-même d'ailleurs du succès financier de son œuvre lorsqu'il a répondu à la télévision française, notamment sur ce point. C'était en 1968, on l'écoute.
Truman Capote, votre livre a connu un énorme succès. N'êtes-vous pas gêné d'avoir gagné tant d'argent à cause d'un crime sordide? Est-ce qu'un correspondant de guerre qui part sur un lieu d'opération doit se sentir coupable de percevoir son salaire? Pour cette affaire, j'y suis simplement allé comme envoyé spécial par le New Yorker. Puis j'ai écrit mon reportage. J'y ai passé 5 années de ma vie. Je suis un écrivain professionnel depuis l'âge de 17 ans. Mais il serait plus vrai de dire que 17 années de travail professionnel m'ont rendu capable de faire un travail comme celui-ci. Votre question, c'est comme si l'on disait qu'un correspondant de guerre ne devrait pas toucher son salaire parce que la guerre n'est pas juste.
Il y a cette voix aussi très très fluette, il y a cette petite taille, ces attributs, il les a transformés en atouts finalement.
Parce qu'il est obligé d'en faire beaucoup pour se faire accepter. Il voit bien quand il entre dans une pièce que les gens sont très surpris.
Ouais.
Et donc il faut compenser, et il est donc brillant, il a des anecdotes, il a des potins.
Et alors vous, la spécialiste de la littérature américaine, je vais vous poser une question au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est que le style Capote, finalement ?
Alors, c'est un style extrêmement versatile, puisqu'il a fait à la fois des romans, des nouvelles, des impressions de voyage, beaucoup de portraits, hein, dont Picasso, Chanel, Gide, enfin, bref, Armstrong, Marilyn, qu'il intitule « L'enfant radieuse ». Donc, finalement, c'est un professionnel, ça n'est pas un plumitif, il est très exigeant avec lui-même, il relit à haute voix, il jette des feuilles, il lit à des amis, supprime des adjectifs superflus. Donc ça va toujours vers plus de transparence, plus de clarté, plus de légèreté.
Et d'efficacité aussi peut-être ?
Oui, absolument.
Vous qui vous êtes penché sur des grands écrivains, notamment Tennessee Williams, Truman Capote.
Ils sont amis, hein, pendant très longtemps.
Oui, en plus.
Tennessee Williams,
c'est pour ça que je
Truman Capote.
Oui, oui. Quelle place il tient finalement, Truman Capote, dans l'histoire de la littérature américaine ? C'est une place importante, certes, mais pourquoi ?
Ben parce qu'il a une place à part, étant donné qu'il sait tout faire. Et que les autres sont des romanciers, Norman Mailer par exemple, et lui, c'est un touche-à-tout. Et ça le définit très bien. Il se laisse porter par son intuition, sa curiosité, et finalement, il réussit ce qu'il entreprend parce qu'il travaille beaucoup.
Liliane Cargan, je sais qu'on ne peut pas lire tous les livres, mais connaissez-vous le livre d'Emmanuel Carrère, L'adversaire ?
Oui.
Voilà, parce qu'il y a peut-être un parallèle, je trouve, à faire entre l'investissement personnel d'Emmanuel Carrère dans cette histoire de Jean-Claude Roman et l'investissement de Truman Capote avec ces deux condamnés. Vous y voyez un parallèle aussi ?
Oui, parce que finalement, il y a une proximité qui se crée. Oui. Et comme disait Perry, faire une œuvre d'art à partir de mon portrait... Quelle ironie.
Oui, c'est vrai. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, Liliane Cargan. Merci en tout cas pour les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Truman Capote, sa vie, son œuvre. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Attachée de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Muriel Perez. Lecture, Claudia Dimier, Natacha Steck et Aurélien Labruyère. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelecoy, Nguyen et Benjamin Riquet.